Voilà, donc c'est la troisième séance, je crois, ou la quatrième, hein, et nous continuons notre réflexion sur la culture générale. On était parti de l'idée de construction symbolique. On avait dit que la culture, c'est le remplacement des faits bruts, hein, des instincts ou bien du mode animal habituel de comportement, par des perspectives fictives, des fictions, hein, des fictions que j'appelle instituantes en ce que elles nous font parvenir à l'humanité à partir justement d'une animalité initiale. Hein. Donc il y a au départ des faits, hein, F-A-I-T-S, et sur ces faits naturels, l'homme a inventé des fictions pour justement se proposer des buts, pour donner à sa vie une finalité. Vous voyez, une finalité, c'est un but, hein, parce que l'homme peut supporter beaucoup de choses dans sa vie, mais il va s'effondrer si on lui dit que la vie est une histoire racontée par un idiot et pleine de bruit et de fureur et ne signifiant rien. Bon, ce que je viens de citer, c'est une citation de Shakespeare, dans Macbeth. Vous voyez, lorsque Macbeth devient fou, il dit cela. La vie est une histoire pleine de bruit et de fureur, ne signifiant rien, un pauvre acteur qui s'agite pendant quelques instants sur l'estrade, sur une stage, hein, la scène, hein, et sans aucune signification. Alors cette phrase, ce n'est pas Shakespeare qui l'apprend à son propos, mais il l'a fait dire à son personnage Macbeth lorsqu'il sombre dans la folie. Bref, là c'est le nihilisme absolu. La vie n'a pas de sens, hein, au double sens du mot sens. Sens, ça veut dire deux choses, signification et direction, vous voyez, hein. Donc, signification, quel est le sens de ce texte? Direction, sans interdit, etc. Eh bien, grâce à ces dispositifs culturels, qui sont des fictions, des fruits de son imagination et de ses rêves, l'homme va finaliser la vie, donner à sa vie un sens, hein, et c'est la fonction de ces constructions symboliques. Donc l'homme va se forger un ensemble de valeurs, hein, auxquelles il va croire. Alors nous avions dit qu'une fois que les constructions symboliques sont efficaces ou opérantes dans l'âme des hommes, s'installe la paix dans les groupes sociaux. Et alors par une espèce de paradoxe, grâce à cette paix, s'est installé, eh bien, l'intelligence au sein de ces groupes va s'éveiller. Les individus vont se mettre à penser, à réfléchir. Et ils vont penser, réfléchir sur ce à quoi ils croient, et par un processus assez bizarre ou assez étrange, l'intelligence se développant va dissoudre justement les constructions symboliques qui lui ont permis de s'exercer. Vous comprenez, hein? C'est un peu scier la branche sur laquelle on est assis, hein, ou bien cracher dans la soupe, vous voyez, hein? Voilà, comme on dit trivialement. Donc, on avait vu les étapes, justement, de cette déconstruction. Rappelez-vous, on avait donné un épigraphe à la dernière leçon, la phrase d'Élie Faure, « Tout se construit par le cœur et se détruit par l'intelligence. » Donc l'intelligence va dissoudre justement ce que l'homme avait inventé pour se sécuriser et pour se protéger. Vous voyez, c'est un processus bizarre, mais dont on peut relever les étapes. Alors, la dernière fois, nous avons dit que la première phase de dissolution critique de la civilisation occidentale, c'était la réforme au XVIe siècle. Donc, Luther, Calvin ont contribué à déconstruire ce que le christianisme avait patiemment construit. Donc, il y avait eu 5 siècles de construction organique de l'an 1000 à l'an 1500, et à partir de l'an 1500, à partir du XVIe siècle, première étape, la réforme. Maintenant, nous allons analyser d'autres étapes. Seconde étape, c'est le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle. Hein. Ce XVIIIe siècle, c'est le siècle de l'intelligence avant tout. Hein. Alors je vais prendre quelques exemples. Un système de valeurs auquel une société croit, ça s'appelle une axiologie. Hein. Ça vient du grec, ça. Hein. Axioma, chose à quoi l'on croit. Donc, comment on va déconstruire le système de valeurs? Alors, prenons l'exemple de Diderot. Je prends quelques exemples très concrets. Il y a un texte de Diderot qui s'appelle « La lettre sur les aveugles ». Eh bien, Diderot nous montre dans sa lettre sur les aveugles que les valeurs, c'est-à-dire ce que nous valorisons, ce à quoi nous croyons, finalement, dépendent de l'état de nos organes. Par exemple, pour un aveugle que Diderot interroge, la pire faute, c'est le vol, parce qu'on peut le voler sans qu'il s'en aperçoive, vous voyez. À l'inverse, l'aveugle ne fait aucun cas de la pudeur. Puisqu'il est privé de la vue, hein, il n'éprouverait pas le besoin de s'habiller s'il n'y avait les obligations météorologiques. S'ils n'étaient pas dus au temps, hein, eh bien l'aveugle se promènerait tout nu, vous voyez. Donc l'aveugle a de toute autre valorisation que la nôtre. Hein. Diderot va même jusqu'à dire la chose suivante, il n'y a aucune différence pour un aveugle entre un homme qui urine et un homme qui sans se plaindre, verse son sang, vous voyez. Bon, alors, Diderot dit que si nos yeux, par exemple, étaient constitués différemment, eh bien, nous aurions d'autres valorisations. Par exemple, nous avons de la compassion pour un cheval qui souffre, mais nous n'avons pas de compassion pour une fourmi que nous écrasons sous notre talon, parce que la fourmi est toute petite, vous voyez, et nous ne la voyons pas. Hein. Elisabeth, que revenant d'Inde, je sais pas, vous avez vu peut-être les jaïnistes qui ont un petit balai. Hein, alors avec leur petit balai, ils font le ménage devant eux pour éviter d'écraser les fourmis. Hein, parce qu'ils pratiquent ce que Gandhi appelait l'ahimsa, c'est-à-dire la non-violence. Hein, le fait de ne rien écraser. Vous imaginez avec le petit balai comme ça, pour pas écraser les fourmis. Mais c'est vrai que la fourmi étant petite, on ne la plaint pas, tandis que le cheval, on le voit souffrant, il est gros, hein, donc on le plaint. Et finalement, prenez l'invention diabolique des armes à feu. C'est diabolique comme invention, pourquoi? Parce que nous voyons la cible toute petite, nous la voyons à distance, si vous voulez. Alors que nous aurions beaucoup de mal à tuer quelqu'un au corps à corps à l'arme blanche, parce que il est tout près de nous et il est gros. Mais au contraire, avec le fusil, et bon, nous le visons, donc c'est diabolique comme invention, parce que en appuyant sur une gâchette, nous ne voyons pas justement un être vivant, nous voyons comme une cible mécanique, vous voyez. Alors qu'est-ce qui resterait de tous nos jugements moraux si nos sens étaient différents? Par exemple, beaucoup sont contre les corridas, où l'on voit un gros animal qui meurt en plein soleil, comme ça, au vu de tous, et parfois on en entend le cri. Hein. Alors là, d'accord, mais nous n'avons pas de compassion pour les escargots, qu'on est bouillante, vous voyez, sont pourtant aussi des bêtes à cornes, les escargots, hein. Eh bien, mais non, on est bouillante les escargots, on est bouillante les homards, vous voyez, nous ne les plaignons pas, vous voyez. Bon, même les petits microbes, quand je fais bouillir de l'eau, ben imaginez tous ces petits microbes, justement, qui sont portés à la température température de 100 degrés. Bon, imaginez ce que cela peut faire. Donc, alors, prenez le cas de ces fameux pêcheurs à la ligne qu'on dit paisibles. Moi, je ne sais pas, vous avez vu un poisson agoniser pendant de longues minutes, hein, en cherchant il meurt étouffé, hein. Alors, bon, paisible pêcheur à la ligne, je ne sais pas. Alors, il est vrai que le poisson ne crie pas, hein, voilà, vous voyez. Donc, ça dépend effectivement de de l'état de nos organes. Dans ce livre de Diderot, La lettre sur les aveugles, ça démolit complètement le système moral, si vous voulez, de l'homme occidental. Hein. On peut démolir aussi les systèmes esthétiques. Par exemple, alors là, je me référerai à un philosophe du siècle précédent qui s'appelle Spinoza. S'agissant de la beauté, Spinoza nous dit « La beauté n'est pas une qualité de l'objet considéré, mais un effet dans celui qui considère cet objet. La plus belle main du monde, vue au microscope, apparaîtra horrible. » Et c'est vrai, si vous regardez, si vous faites une macrophoto d'une peau, hein, eh bien vous y verrez les anfractuosités, les rides, etc. Bon, considérablement grossies. Donc le beau lui-même, j'ai parlé des valeurs éthiques tout à l'heure, maintenant je parle des valeurs esthétiques, le beau est relatif justement à la façon dont nous voyons. Hein. Voltaire disait « tout crapaud aime sa crapaude ». Hein. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour un crapaud que la femelle du crapaud? Donc on entre là dans ce qu'on appelle relativisme, hein, et effectivement le beau cesse d'être ce qu'il était pour Platon, c'est-à-dire la splendeur du vrai. Pour Platon, le beau était éternel, universel. Il devient juste, il renvoie à une valorisation individuelle, voyez. Spinoza déjà dans l'éthique avait préfiguré ce relativisme. Hein. L'éthique est écrite en latin, vous le savez. Hein. Bon, elle est écrite en latin, donc la plus belle main du monde. Je vous le dis en latin: pulcherrima manus per microscopum conspecta terribilis apparebit. Vous voyez, la plus belle main du monde vue au microscope apparaîtra horrible. Et vous savez que Spinoza dit que ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, mais parce que nous la désirons que nous disons qu'elle est bonne. Donc le bien aussi est relatif au désir individuel. Voyez. Donc il n'y a plus de valeur universellement valable. Voyez. Hein. Il y a un texte de Voltaire qui s'appelle Micromégas. Micromégas s'appelle, ça veut dire petit grand, hein, où justement cette relativité universelle est affirmée. Alors, le philosophe antique Protagoras disait que l'homme est la mesure de toute chose, hein, et c'est vrai, que tout est relatif. Prenez, je ne sais pas moi, une bassine d'eau, hein, si vous venez de dehors que votre main est froide, elle vous apparaîtra chaude. Si à l'inverse, la même eau apparaîtra froide si votre main est d'une autre température, etc. Vous voyez, bon, c'est très facile à soutenir, mais le 18e siècle, c'est un siècle terriblement intelligent, mais aussi terriblement, destructeur. Vous voyez, destructeur de beaucoup de choses, de beaucoup d'illusions. Les valeurs esthétiques même, vous savez, elles ont commencé, leur gratuité est apparue dès le 18e siècle. Regardez comment Diderot commence son récit, Jacques le fataliste. Hein. Il dit, comment s'était-il rencontré, par hasard comme tout le monde, d'où venait-il, du lieu le plus prochain, où allait-il, que vous importe. Donc vous voyez là, la gratuité absolue de tout récit apparaît. Hein. Donc, Valérie disait « Jamais je n'écrirai la marquise sortit à 5 heures ». En effet, pourquoi une marquise et pas une comtesse et pas une duchesse? Pourquoi 5 heures et pas 4 heures ou 6 heures? Vous voyez, il y a une énorme gratuité hein, dans le fait d'écrire. Hein. Eh bien, ça c'est la modernité du 20e ou de notre siècle aussi. Hein. Mais tout cela a été préfiguré par Diderot, ou bien par Sterne aussi, le romancier anglais. Hein. Ce n'est pas d'hier. On est passé, selon la formule d'un théoricien du nouveau roman qui s'appelle Jean Ricordou, de l'écriture d'un récit au récit d'une écriture, vous voyez, hein. Bon, autrefois, on croyait naïvement, avec confiance, avec, comme on dit en latin, fiducia, on faisait crédit à ce qu'on nous racontait. Et puis maintenant, on s'aperçoit que toute la modernité littéraire, par exemple, nous montre la gratuité absolue de du processus, et ça ne fonctionne que si on confère un crédit. Par exemple, si je dis « il était une fois », alors « il était une fois » dans les contes, hein, aussitôt on fait crédit à la personne qui parle ainsi. Mais ce virement de crédit que l'on fait, comme on le dit aussi dans le monde bancaire, on crédite un compte, hein, c'est un virement totalement gratuit, hein, totalement gratuit. Et je pense que cette vision-là, elle est terriblement intelligente, mais aussi terriblement dangereuse. Je vous avais parlé des liaisons dangereuses de Laclos, vous vous en souvenez, hein? Ben écoutez, je vais vous lire une lettre, hein? Vous allez me dire ce que vous pensez de cette lettre dans les liaisons dangereuses de Chauderlos de Laclos. Et celui qui reçoit cette lettre, je crois que la dernière, une fois j'avais parlé d'une lettre de rupture, hein, on se lasse de tout mon ange, etc. J'avais dit que si vous voulez rompre avec quelqu'un, recopiez la lettre de rupture des liaisons dangereuses. Il faut bien que les humanités soient utiles quand même. Hein. On parle de retour sur investissement. Hein, c'est Sarkozy qui veut que l'instruction soit utile. Il ne comprend pas en quoi la princesse de Clèves ne le serait pas. Hein. Bon, alors, pour le modèle de lettre rupture, je vais signaler. Mais maintenant, imaginez que vous recevez la lettre suivante. « C'est après une nuit orageuse et pendant laquelle je n'ai pas fermé l'œil. » C'est un homme qui parle, hein. « C'est après avoir été sans cesse ou dans l'agitation d'une ardeur dévorante ou dans l'entier anéantissement de toutes les facultés de mon âme que je viens chercher auprès de vous, madame, un calme dont j'ai besoin et dont pourtant je n'espère pas jouir encore. En effet, la situation où je suis en vous écrivant me fait connaître plus que jamais la puissance irrésistible de l'amour. J'ai peine à conserver assez d'empire sur moi pour mettre quelque ordre dans mes idées. Et déjà je prévois que je ne finirai pas cette lettre sans être obligé de l'interrompre. Quoi, ne puis-je donc espérer que vous partagerez quelque jour le trouble que j'éprouve en ce moment? J'ose croire cependant que si vous le connaissiez bien, vous ne seriez pas entièrement insensible. Croyez-moi, madame, la froide tranquillité, le sommeil de l'âme, image de la mort, ne mène point au bonheur. Les passions actives peuvent seules y conduire, et malgré les tourments que vous me faites éprouver, je crois pouvoir assurer sans crainte que dans ce moment, je suis plus heureux que vous. » Bon, alors, imaginez que vous receviez cette lettre. Vous êtes une femme, hein, vous allez vous dire, voilà quelqu'un qui est un amoureux transi, qui me parle à la façon romantique, hein, et voilà quelqu'un qui est malheureux parce que je l'ai repoussé. Vous voyez, c'est ça à quoi vous allez penser. Hein. Quelqu'un qui est déstabilisé, qui ne connaît pas le calme, parce qu'il a subi une rebuffade. D'accord? C'est donc la présidente de Tourvel qui reçoit cette lettre, c'est une femme vertueuse. Bon. Alors, figurez-vous que Valmont écrit cette lettre. Hein. en se servant d'une courtisane qui s'appelle Émilie comme pupitre. Hein. Donc il écrit sur le dos nu d'Émilie cette lettre et il interrompt sa lettre pour faire l'amour à Émilie de temps en temps. Vous voyez ? Bon, alors donc tous les mots changent de sens. Tous les mots changent de sens. Alors, je relis la même chose, c'est après une nuit orageuse, et pendant laquelle je n'ai pas fermé l'œil. Vous sentez bien le côté... Donc, il y a à la fois une lecture romantique et une lecture pornographique, d'accord ? Derrière chaque mot, c'est après avoir été sans cesse, ou dans l'agitation d'une ardeur dévorante, ou dans l'entier anéantissement de toutes les facultés de mon âme, vous voyez, bon, que je viens chercher auprès de vous, madame, un calme dont j'ai besoin, et dont pourtant je n'espère pas jouir encore. Jouir encore avec Émilie, bien entendu. Mais l'autre, recevant ça, elle ne peut qu'être flattée. Bon, en effet, la situation où je suis en vous écrivant me fait connaître plus que jamais la puissance irrésistible de l'amour. J'ai peine à conserver assez d'empire sur moi pour mettre quelque ordre dans mes idées, et déjà je prévois que je ne finirai pas cette lettre sans être obligé de l'interrompre. Donc vous sentez l'autre situation. Quoi, ne puis-je donc espérer que vous partagerez quelque jour le trouble que j'éprouve en ce moment ? Alors, vous comprenez le sens du mot trouble. Tourvel, la présidente de Tourvel, femme vertueuse, parle que c'est un trouble du cœur. Là, il s'agit d'un trouble des sens. Vous voyez, j'ose croire cependant que si vous le connaissiez bien, vous n'y seriez pas entièrement insensible. Donc là, vous vous sentez bien le côté, cynique du libertin et le côté, impertinent. Croyez-moi, madame, la froide tranquillité, le sommeil de l'âme, l'image de la mort ne mène pas au bonheur. Les passions actives seules peuvent y conduire, et malgré les tourments que vous me faites éprouver, je crois pouvoir assurer sans crainte que dans ce moment je suis plus heureux que vous. Vous voyez ? Bon. Alors, vous voyez, ça vous fait rire. Ben, voilà. Donc, c'est vertigineux. Mais quand vous faites. Les cultures reposent sur la fiducia, mon latin, ou confiance faite au langage. Et si vous fragilisez le langage, vous sapez les cultures. Vous sapez une culture. Et quelques années après, a éclaté la Révolution française. C'est pas pour rien. Les liaisons dangereuses, ça doit être 1784, 85, quelque chose comme ça. Donc, quelques années après, éclaté la Révolution française. Alors, vous voyez, en vain m'accablez-vous de vos rigueurs désolantes, elles ne m'empêchent point de m'abandonner entièrement à l'amour. Vous voyez, en vain m'accablez-vous de vos rigueurs désolantes, elles ne m'empêchent point de m'abandonner entièrement à l'amour et d'oublier, dans le délire qu'il me cause, le désespoir auquel vous me livrez. C'est ainsi que je veux me venger de l'exil auquel vous me condamnez. Jamais je n'eus tant de plaisir en vous écrivant. Jamais je ne ressentis dans cette occupation une émotion si douce et cependant si vive. Alors, tout semble augmenter mes transports, l'air que je respire est plein de volupté, la table même sur laquelle je vous écris, consacrée pour la première fois à cet usage, devient pour moi l'autel sacré de l'amour. Alors, cette table, c'est la croupe d'Émilie, vous voyez, mais la présidente de Tourvel ne peut pas le sentir, ça, ne peut pas le savoir, L'autel sacré de l'amour, combien elle va s'embellir à mes yeux, j'aurai tracé sur elle le serment de vous aimer toujours, donc vous voyez le côté pornographique. Pardonnez, je vous en supplie, au désordre de mes sens. Je devrais peut-être m'abandonner moins à des transports que vous ne partagez pas. Il faut vous quitter un moment pour dissiper une ivresse qui s'augmente à chaque instant et qui devient plus forte que moi. Alors après, alinéa. Bon, je reviens à vous, madame, et sans doute j'y reviens toujours avec le même empressement. Cependant, le sentiment du bonheur a fui loin de moi. Il a fait place à celui des privations cruelles. À quoi me sert-il de vous parler de mes sentiments si je cherche en vain les moyens de vous convaincre ? Alors, après tant d'efforts réitérés, la confiance et la force m'abandonnent à la fois, vous voyez ? Bon, Si je me retrace encore les plaisirs de l'amour, c'est pour sentir plus vivement le regret d'en être privé. Je ne vois de ressources que dans votre indulgence, et je sens trop dans ce moment combien j'en ai besoin pour espérer de l'obtenir. Cependant, jamais mon amour ne fut plus respectueux. Effectivement, il est épuisé, hein. Jamais mon amour ne fut plus respectueux. Jamais il ne dut moins vous offenser. Il était, j'ose le dire, que la vertu la plus sévère ne devrait pas le craindre. Alors, vous voyez le double sens du mot amour, hein. Mais je crains moi-même de vous entretenir plus longtemps de la peine que j'éprouve. Assurez que l'objet qui la cause ne la partage pas. Il ne faut pas moins abuser de ses bontés. Et ce serait le faire que d'employer plus de temps à vous retracer cette douloureuse image. Je ne prends plus que celui de vous supplier de me répondre et de ne jamais douter de la vérité de mes sentiments. Vous vous rendez compte? Et de ne jamais douter de la vérité de mes sentiments. Donc on est là dans la duplicité totale, hein. Valmont est un... Alors, il y a deux films qui ont été faits. Le film Stephen Frears, c'est le film de Forman. Bon, Stephen Frears, Les Liaisons Dangereuses, et Forman, ça s'appelle Valmont, hein, vous avez vu peut-être. Au cinéma, ça serait assez facile à faire. On pourrait faire des alternances chant contre chant. On verrait la présidente de Tourvel lisant avec émotion la lettre, et puis le contre-chant, Valmont et Émilie, hein, ça pourrait... bon. Mais enfin, vous savez, c'est une prouesse fantastique, ça, hein, littéraire, d'écrire une page entière comme ça, hein, avec chaque mot ayant un double sens. Faut le faire quand même, hein. C'est vraiment un tour de force, hein, d'écrivain. Hein. Mais c'est extrêmement dangereux, parce que je vous dis tout de suite, la civilisation repose sur quoi? Sur le serment, sur le contrat, sur la signature, c'est-à-dire le langage, finalement. On s'engage à quelque chose, soit oralement, hein, soit par écrit. Hein. Et si on ne peut se fier ni à l'oral ni à l'écrit, si chaque parole a un double sens, hein, à ce moment-là, à quoi est-ce qu'on va se fier? Puisque la culture, c'est, je l'avais dit, le sens du futur. Et le sens du futur nous est donné, cette perspective, la perspective nous est donnée justement par le langage. Futur, c'est aussi un sens grammatical. Demain, je ferai cela, c'est-à-dire, je m'engage à, rembourser cette dette, par exemple, ou bien je m'engage à rendre quelqu'un heureux dans le cas d'une déclaration d'amour, vous voyez, des choses comme ça. Eh bien, si on ne se fie plus au langage, alors, par exemple, si je dis à une femme, je t'aime, tu es la dernière, alors elle sera très heureuse, parce qu'elle va dire, enfin, bon, il a trouvé son âme sœur, et je suis la dernière qu'il aime. Mais si je veux dire, je t'aime, tu es la dernière, en attendant la prochaine, vous voyez que le mot dernier cesse d'avoir un sens absolu pour avoir un sens relatif. Oui, si je suis roué comme Valmont, hein, roué ça veut dire pervers, enfin bon voilà, je peux multiplier ce genre de déclaration. Par exemple, je peux dire à quelqu'un, pour toi j'irai jusqu'au bout du monde. Bon, alors, si c'est une femme, elle sera très heureuse. Mais si je veux dire, pour toi j'irai jusqu'au bout du monde pour ne plus te voir... Vous voyez, donc ça veut dire tout autre chose, hein. Donc voilà. Moi, je disais souvent en classe à mes étudiants, là, en hypocagne, je leur disais, si je vous dis j'aime et je suis aimé, vous allez dire, oh, qu'il a de la chance, hein, il a de la chance. Mais qui vous dit qu'il s'agit de la même personne? Vous voyez, hein, chacun de nous peut le dire, j'aime et je suis aimé. Mais il n'est pas sûr qu'il s'agisse de la même personne, hein, voyez, hein. Donc le langage, peut avoir un double sens, si on s'amuse à jouer sur ces doubles sens, c'est à la fois terriblement intelligent et aussi terriblement dangereux. Vous voyez? Bon, moi je ne me prononce pas du tout sur... Mais je pense quand même que si on ne peut plus se fier justement à ce qui est dit, hein, engager sa parole, engager sa foi, comme on disait, parole d'honneur, etc. Hein, si on dit comme les cyniques, je crois que c'est Talleyrand qui disait le langage, les promesses n'engagent que celles, que ceux qui les reçoivent. Hein, vous voyez, c'était un cynique, ce Talleyrand. Je l'attribue à Talleyrand, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Bon, à ce moment-là, normalement, c'est par le langage, justement, et les paroles que l'on croit que les sociétés fonctionnent. Vous savez, on prend les hommes comme les lapins par les oreilles. Vous savez comment on prend les lapins, hein? Bon, on prend par les oreilles. Eh bien, donc, une société ne fonctionne que sur l'efficacité des paroles, hein, sur le crédit donné aux paroles. Hein, et ça, c'est dangereux, il me semble, de le mettre en question. Est-ce que vous avez une idée d'une intervention possible là-dessus avant que je continue sur, non, ça, c'est...
Avec la présidentielle, avec la campagne présidentielle, on est en plein dedans. Oui. Oui. On pouvait, la parole de Talleyrand, on peut la mettre dans la bouche de Sarkozy, d'Eva Joly, de François Hollande, de tout le monde.
À la religion catholique, il est dit le Verbe se fera chair.
Absolument, bon, ça c'est le prologue de l'évangile de Jean, hein. Le Verbe s'est fait chair, bon, le verbe c'est à la fois la parole et l'intelligence, logos en grec, hein, dans le texte de Jean, hein. La parole et l'intelligence. C'est vrai que tout repose sur le verbe et le fragiliser. Alors, vous parliez du contexte. C'est vrai que bon, on peut effectivement, en tirant une phrase de son contexte, lui faire dire plein de choses. Hein. Le cardinal de Richelieu disait « Donnez-moi deux lignes de quelqu'un et je le ferai pendre. » Vous voyez, hein. Donc, le contexte est très important. Par exemple, mon prochain billet dans Goliath Hebdo sera consacré à ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Toutes les civilisations ne se valent pas, nous devons défendre notre civilisation. Alors là, il y a eu un grand, comment dire, une levée de boucliers, effectivement, de la part des partis de gauche. Mais ils ont oublié ce qu'il y avait au milieu, hein, à savoir que les civilisations qui méprisent les femmes, ou les civilisations qui ne respectent pas les droits de l'homme ne valent pas les autres. Donc on a caviardé cette citation. Moi je ne dis rien, je ne prends pas parti de ce point de vue politique, mais il faut pas faire de procès d'intention justement en caviardant ce genre de texte. Hein. Bon, on peut faire dire le contraire à quelqu'un en sautant un peu ce qu'il a dit. Mais nous y reviendrons lorsque nous parlerons du particulier et de l'universel à propos de ces civilisations. Alors voilà, donc fragilisation du langage. Alors, maintenant j'en viens au 19e siècle. Alors là c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus scolaire. Là, j'étais au 18e, au 19e siècle. Le fameux positivisme, le positivisme d'Auguste Comte. Bon, alors qu'est-ce que c'est que le positivisme? C'est un peu scolaire ce que je vous dis. Non, je vais essayer de le rendre un peu plus agréable à entendre quand même. Hein. Bon, selon Auguste Comte, l'humanité est passée par trois états. Hein. Le premier état, justement, qu'il appelle l'état théologique ou fictif, où les hommes ont tout interprété par des interventions des dieux. Par exemple, lorsqu'il y avait une tempête, on disait que c'était la colère de Poséidon, hein, le dieu de la mer, ou Neptune pour les Romains, ou bien le dieu des vents, Éole. Voilà, la tempête était due à cela. Le deuxième état, c'est l'état métaphysique ou abstrait, où l'on cesse d'expliquer les choses par les dieux, mais on les explique par les abstractions, des notions générales et abstraites. Par exemple, on dira les corps tombent parce qu'ils ont une vertu pesante, ou bien le pain nourrit parce qu'il a une vertu nutritive, ou bien l'opium fait dormir parce qu'il a une vertu dormitive dont la nature est d'assoupir les sens. Hein. Opium facit dormire sibilatae macaronix. Hein. Quia est ineo virtus dormitiva, cuius natura est sensus assoupire. Vous comprenez ça, hein. C'est du latin de Molière, ça. Hein. C'est du pseudo-latin. Hein. Bon. Donc, il y a en lui une vertu dormitive dans la nature et d'assoupir les sens. Donc, premier état, les dieux. On explique tout par les dieux. Deuxième état, des abstractions, des vertus. Et alors, le troisième état, pour Auguste Comte, là, c'est ce qu'il explique dans son cours de philosophie positive. Hein, bon, c'est l'état positif ou l'état scientifique. Hein. Alors, on n'explique plus par les dieux ou par les abstractions, mais par les vraies causes ou raisons. Par exemple, la tempête. C'est un phénomène météorologique, un afflux d'air d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression, vous voyez. La foudre, c'est pas la colère de Zeus, hein, comme on le croyait dans le premier état, mais c'est un phénomène électrique, c'est une différence de potentiel entre un point A et un point B. Bon, c'est très facile à comprendre. L'opium fait dormir, bon, parce qu'il agit sur les centres nerveux de telle ou telle façon. Le pain nourrit, non pas parce qu'il a une vertu nutritive, mais parce qu'il comporte telle ou telle substance qui sont métabolisées, c'est-à-dire transformées en énergie par l'organisme. Les corps tombent non pas parce qu'ils ont une vertu pesante, mais parce qu'ils sont attirés par le centre de la Terre, c'est la loi de la gravitation, etc. Vous voyez ? Bon. Donc, pour Auguste Comte, le troisième état, l'état positif, annule et invalide les deux premiers états. Hein. C'est irréversible. Une fois qu'on est arrivé dans le dernier état, eh bien, on ne peut plus revenir au premier. Hein. C'est là-dessus que nous vivons encore aujourd'hui. Hein, on appelle ça la loi des trois états. Hein, c'est sûr que le positivisme, puisque le livre de Comte s'appelle Cours de philosophie positive, nous influence. Mais pour faire un petit retour en arrière, déjà au siècle précédent, Fontenelle avait développer la chose, l'idée suivante. Imaginez que vous êtes devant le spectacle de la nature, comme dans un théâtre, vous assistez à un opéra. Imaginez que dans cet opéra, un personnage qu'il appelle Phaéton s'élève dans le ciel. Bon, alors Fontenelle fait parler les assistants. Un philosophe aristotélicien dira Phaéton s'élève parce qu'il n'est pas à l'aise, il n'est pas dans le haut du théâtre, il est comme, il a une certaine vertu, ascendante qui l'élève. Hein. Un platonicien expliquera autrement. Et alors, un petit philosophe dans l'assistance, qui est le philosophe vraiment préfigurant le positivisme, ce philosophe c'est Descartes. Descartes nous dit, Phaéton monte parce qu'un corps plus lourd que lui descend. Donc, nous sommes devant le spectacle de la nature comme devant les spectateurs de l'opéra. Nous devrions passer derrière la scène pour voir dans les coulisses, pour voir les machinistes, pour voir les poulies, les cordes, si vous voulez, pour voir comment ça se passe. Et ainsi, nous cessons d'admirer bêtement, comme des enfants, mais nous comprenons les vraies causes ou raisons des choses, vous voyez. Donc ça se trouve dans les entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle, et ça préfigure tout à fait ce que dit Auguste Comte. Alors, devant la nature, nous sommes comme ça, nous émerveillons, hein, la plupart du temps, devant le spectacle de la nature, mais nous devrions essayer de comprendre pourquoi les choses sont comme ça. Et alors, nous cesserions de nous émerveiller comme un sot, mais nous commencerions à comprendre comme un savant, comme on disait dans latin, non ut stultus admirari, non point s'étonner comme un sot, sed ut doctus intelligere, mais comprendre comme un savant. Alors, par exemple, les psaumes dans la Bible nous disent que les cieux et la terre nous chantent la gloire de Dieu. Eh bien, si je reprends l'exemple de Diderot, cet argument n'est d'aucune valeur pour un aveugle, puisque la gloire de Dieu, il la voit pas, l'aveugle. Hein. Donc, vous voyez déjà, les merveilles de la nature c'est pas un argument pertinent pour tout le monde. Alors, il n'y a pas, une fois qu'on a compris le pourquoi des choses, eh bien, on abandonne l'idée de but, l'idée de finalité, l'idée de dessein EIN, que nous projetons toujours de façon plus ou moins animiste sur les choses. Et nous remplaçons l'idée de finalité par une idée de nécessité. Je vais prendre un autre exemple. Prenons le nombre 9 et les multiples de 9. On constate que si on additionne 2 et 7, on a 9. Si on additionne, donc dans 27, on a 2 plus 7, ça fait 9. Dans 36, 3 plus 6 font 9, etc. Alors, je peux m'émerveiller naïvement d'une telle régularité que les multiples de 9 font 9 ou un multiple de 9 si on additionne leurs chiffres. Ensuite, je vais en classe et le professeur de mathématiques me fait la démonstration. Il me montre que cela doit à tout jamais résulter de la nature de ces nombres même. Hein. Donc, une fois que la démonstration est faite, on cesse d'admirer. Hein. On voit que l'émerveillement naïf, c'est un émerveillement enfantin. Nous comprenons la nécessité des choses. Prenons d'autres exemples. Vous admirez la beauté de la biche. Bon, la biche, c'est un animal fin et élancé. Mais la beauté de la biche, devant laquelle vous vous extasiez, elle est là justement pour que la biche, étant ainsi profilée aérodynamiquement, puisse échapper à la griffe du prédateur, à la griffe et à la dent du lion, vous voyez, hein. Donc, si elle était autrement faite, la biche, elle n'existerait même pas, vous voyez. Donc, il est nécessaire qu'elle soit ainsi pour qu'elle ait ses chances. Alors, cessons d'admirer naïvement l'ordre des êtres naturels et comprenons qu'il leur était impossible d'admettre, même dans leurs plus petits détails, une disposition tout à fait différente. Donc c'est Jacques Monod qui, dans un livre appelé « Le hasard et la nécessité », nous dit que tout ce qui existe est le fruit d'un hasard initial et d'une nécessité totalement absolue, si vous voulez. Et alors, vous avez entendu parler de Darwin. Alors, pour Darwin, il n'y a aucune finalité dans la nature, aucune finalité, aucun but. Darwin dit que la nature ne connaît que ce qu'il appelle le combat, struggle for life, la lutte pour la vie, hein. Les anciens l'avaient dit aussi, polemos pater panton, le combat est père de tout, disait Héraclite, la lutte. Et finalement, seul survit le plus adapté, fittest, le plus adapté, le mieux adapté. Donc, il n'y a pas de but. Alors, ça fonctionne très bien, la nature. La nature fonctionne parfaitement bien. Si vous enlevez, par exemple, dans une rivière les brochets, eh bien, la faune va dégénérer. Parce que le rôle du brochet, c'est de dévorer les poissons affaiblis, malades, les traînards, etc. Donc, on peut tirer de la nature l'idée d'un fonctionnement parfait. Mais on ne peut pas en tirer une idée de but, une idée de finalité, une idée de consolation, si vous voulez, ou de justification d'existence. Ce qui existe, finalement, n'est là que parce que cela sert à quelque chose. La fleur, bon, vous admirez les fleurs. La fleur, c'est l'organe de reproduction de la plante. C'est tout. Hein. Donc, la beauté des fleurs, les fleurs sont belles, d'accord, mais elles ont des couleurs vives pour attirer les insectes qui doivent les polliniser, vous voyez. Bon, donc on voit le pourquoi des choses. Alors, on n'a plus l'émerveillement de l'enfant. On a peut-être un autre émerveillement pour en discuter, mais un émerveillement peut-être au plus mûri. Peut-être, ça c'est à discuter. Mais, en fait, les fameuses harmonies de la nature, On y croyait encore. Bernardin Saint-Pierre en parlait des harmonies de la nature. Vous connaissez Bernardin Saint-Pierre, il disait par exemple, la puce est noire pour qu'on la voie sur le drap blanc. Bon, moi je veux bien. Si la puce était blanche, on ne la verrait pas. Alors il disait, le melon a des tranches pour être mangé en famille, et la citrouille étant plus grosse pour être mangée avec les voisins. Bon, moi je veux bien. Il disait aussi que les chiens sont ordinairement de plusieurs couleurs pour éviter qu'on ne les confonde avec les meubles sur lesquels souvent ils se posent et avec la couleur desquels on risquerait de les confondre. Marquez que dans la fable de La Fontaine qui s'appelle Le Gland et la Citrouille, cette idée du finalisme se retrouve, hein, cette idée que je conteste ici. Vous connaissez Le Gland et la Citrouille. Un brave paysan s'étonne que le gland, un si petit fruit, pousse sur un si grand arbre que le chêne, et que la citrouille pousse à même le sol sur une plante rampante. Bon, il y a là disproportion, hein, et ce n'est pas normal. Alors, ayant ainsi réfléchi, il se couche sous l'arbre et il s'endort, ce qui montre qu'il n'a pas beaucoup, il réfléchit pas longtemps, hein. Bon, il s'endort et pendant qu'il dort, eh bien, un gland tombe de l'arbre et tombe sur son nez. Alors il se réveille, il dit, il comprend, hein, Dieu fait bien ce qu'il fait, etc. Bon, effectivement, si ça avait été une citrouille, voilà. Alors, ce finalisme, on y a cru longtemps, hein, on y a cru longtemps. C'est vrai que on raconte aussi une histoire amusante, c'est un prêtre qui se promène en lisant son bréviaire et puis tout à coup un oiseau du haut du ciel lâche sa fiente sur lui, et alors le prêtre dit, je rends grâce au ciel de ce que Dieu n'ait point créé de vaches volantes, vous voyez. Donc c'est quelque chose, bon, qu'on cite parfois. Alors, ce finalisme, vous pouvez y croire, hein, vous pouvez y croire. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que, c'est quelque chose. Remarquez, ça console, hein. On a toujours besoin de penser que le sens, par exemple, nous n'admettons pas que nous sommes nous. Hein. Nous voulons attendu, désiré, espéré. Nous n'admettons pas que nous sommes le fruit de la rencontre fortuite d'un spermatozoïde plus sprinteur que les autres, hein, et d'un ovule. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Nous croyons doté de sens. Hein. C'est humain, ça. On ne peut pas l'empêcher. Hein. Et pourtant, un peu de réflexion montre que c'est bien vrai. Hein. Le vrai, bon. Mais on peut être détruit en tant qu'être humain. Annick.
Par rapport à l'exemple que vous avez donné, j'ai envie de contester parce que on peut dire aussi que l'enfant vient d'abord du désir des parents et qui est en amont, il naît déjà dans la langue, dans les histoires qu'on se raconte, dans les fantasmes, bien avant le spermatozoïde. Et que sans ces fantasmes-là, ou sans ces désirs, sans cette histoire qui le précède, l'enfant ne peut pas arriver. Et ce, y compris au niveau de la conscience.
Oui, non, moi je comprends tout à fait ça. Donc il y a un ensemble de langagiers, hein, au sens très large, hein, qui prépare la venue de l'enfant. Hein. Effectivement, des projets. Mais pourtant, d'un strict point de vue biologique, ce que j'ai dit est vrai. Hein, d'un strict point de vue biologique, on peut pas le nier, si vous voulez. Mais les civilisations ou les cultures ont voulu euphémiser justement la naissance, hein, en l'euphémise, en la mettant en scène, en la représentant. Par exemple, les nativités en peinture, hein, eh bien, sont là pour, par en bénir, mais oui, vraiment euphémiser, doter de sens la venue au monde d'un enfant, hein, et alors que ce qui est destructeur, ça sera par exemple l'échographie, tenez. L'échographie, c'est un visage de glaise qu'on voit, des formes, bon, c'est quelque chose, beaucoup de futures mères n'aiment pas voir les échographies, si vous voulez, parce que ce n'est pas une image, instituante, alors qu'une nativité, c'est instituant, vous voyez, et pourtant, le fait brut, c'est l'échographie, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, il y a les faits, F-E-E-S, dont vous parlez, les faits, le monde des faits, et les faits, F-A-I-T-S, hein. Bon, alors, dans le positivisme que je développe, hein, eh bien, les faits, F-E-E-S, disparaissent au profit des faits bruts, vous voyez, hein.